Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 15 novembre, vous êtes sur Cause Commune 93.1 à Paris pour les régionaux sur causecommune.fm, émission et pour cause, on vous retrouve ce soir avec William. Le thème des réfugiés est plus que jamais d'actualité, notamment en ce moment, et d'ailleurs à la frontière de la Pologne. Mais il y a quelques années, d'autres réfugiés ont atterri dans l'Hexagone. Pléthore de génocides ont eu lieu ces dernières décennies, le génocide rwandais, juif et bien d'autres, hélas. Ce soir, dans Et pour cause, nous allons évoquer le génocide cambodgien. De 1962 à 1997, le principal dirigeant des Khmers Rouges a été Saloth Sar, plus connu sous le nom de Pol Pot. Les Khmers Rouges ont pris le pouvoir au terme de plusieurs années de guerre civile, mettant en place le régime politique connu sous le nom de Kampuchea démocratique entre 1975 et 1979, période durant laquelle ils dirigèrent le Cambodge. Leur organisation a mis en place une dictature d'une extrême violence chargée dans un cadre autarcique de créer une société communiste, sans classe, ethniquement pure, purgée de l'influence capitaliste et coloniale occidentale ainsi que de la religion. Le nouveau régime décrète notamment l'évacuation de toutes les villes du pays, contraignant les populations citadines à travailler dans les campagnes, dans des conditions relevant de l'esclavage. Le Cambodge vit alors sous un régime d'arbitraire total. Le régime Khmer Rouge s'est rendu coupable de nombreux crimes de masse, en particulier de l'assassinat de plusieurs centaines de milliers de Cambodgiens. Et selon les estimations minimales, le programme d'études sur le génocide cambodgien de l'université Yale évalue le nombre de victimes à environ 1,7 million de personnes, soit plus de 20% de la population de l'époque. Les dirigeants sont chassés du pouvoir au début 1979 par l'entrée des troupes vietnamiennes du Cambodge qui libèrent la population des Khmers Rouges. Ces derniers mènent ensuite une nouvelle guérilla jusqu'à leur disparition à la fin des années 90. Et pour en témoigner ce soir, nous recevons Langlois. Bonsoir Langlois.
Bonsoir Karim. Bonsoir William.
Bienvenue ici. J'ai fait une petite présentation de cette période. Alors c'est vrai qu'on parle de beaucoup de génocides, mais évidemment il y a ce génocide cambodgien qui s'est passé dans les années 70, qui était terrible.
Oui,
je le disais,
fait,
plus
ouais.
de 2 millions de morts. Et toi, tu avais 12 ans à cette époque.
Voilà, tout à fait.
Tu as vécu cette période.
Entre 11 et 12 ans.
Voilà. Entre 11 et 12
voilà,
ans.
Voilà, puisqu'on sait que ça commence en 1975. Et donc, alors, la ville où nous vivons à l'époque, nous n'avons pas subi de guerre civile, curieusement. Mm-hmm. Parce que ça se trouve partout ailleurs, il y a la guerre, mais là, c'était très très calme. Nous, on subit ça juste au moment où le régime est tombé, quoi.
Alors concrètement, il y avait un régime, il y avait ça se passait plutôt bien avant l'arrivée des Khmers Rouges.
Tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Après, c'est la guerre civile en fait.
D'accord.
C'est la guerre civile entre les
Cambodgiens eux-mêmes.
Voilà, c'est pour ça le mot Khmer Rouge, Khmer veut dire en cambodgien. Ce sont les Cambodgiens Khmer.
D'accord.
Et rouge.
Communiste.
Exactement. Voilà.
D'accord.
Voilà, c'est pas un nom qu'on donne comme ça. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit Khmer Rouge. En
donc
fait,
eux, ils voulaient quoi exactement, ces Khmer Rouges?
Ils voulaient reprendre le pouvoir, mais ça a été organisé par le prince en fait, qui était parti en Chine. Et puis, avec les négociations, ils montent des armées un peu clandestines, un peu. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ils sont cachés dans la forêt, dans la jungle, tout ça. Et puis finalement, ils ont fini par gagner.
Alors, ils demandaient au peuple de se rallier à eux, sans avoir le choix, en disant soit vous devenez...
Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je connais pas trop vraiment l'histoire, comment ils se sont montés, l'armée rouge. Mais après les peuples, non, les peuples, c'est par exemple comme nous. Nous étions, je crois, je me rappelle à l'époque, c'était Nouvel An cambodgien. Mm-hmm. Ça s'est passé, Nouvel An cambodgien. Donc du coup, on a appris à la radio, d'un seul coup, voilà, la guerre a été gagnée par les Khmers Rouges. Nous, on n'a pas entendu un seul coup de fil. Hein. Là où nous étions, c'était vraiment... en
tranquille,
paix,
locale,
alors que partout ailleurs au Cambodge, il y avait de la guerre, bombardement, etc. Nous, c'était tranquille. Par contre, une fois ils ont gagné, bon, ils ont dit, voilà, maintenant, c'est le nouvel an cambodgien, on va prolonger la fête, parce qu'en général, c'est la tradition qu'on fête pendant 3 ans. Nouvel an.
Ah, sympa, c'est 3 ans le nouvel an. Bah ouais, ça fait
alors,
beaucoup
mais
de réunions.
Voilà, sauf que eux, quand ils arrivent, ils disent on va prolonger ça. Ça y est, on a gagné, on est content et tout, vous allez voir, c'est génial et tout ça. La fête continue, on ne s'arrête pas au bout de 3 jours. Sauf qu'en quelques heures, les événements changent au fur et à mesure, très très vite. Ça se passait très très vite.
Qu'est-ce qui change?
Alors, il change, il dit voilà, maintenant, finalement, on ne fait pas la fête pendant 3 jours, il faudrait abandonner chez vous. Hein, il faudra quitter la maison et on va vous dire à quel endroit il faut y aller. Vous prenez le minimum ce que vous pouvez, c'est-à-dire pas grand-chose. Il y a des gens qui utilisent leur voiture, mais quand il n'y a plus d'essence, on abandonne les voitures. Et nous, nous sommes partis à pied avec des charrettes. Hein, on emmène.
Donc, comme je disais en introduction, on demande aux villageois de quitter les grandes villes et de partir.
De partir plutôt à la campagne.
À la campagne, et pourquoi faire?
Pour abandonner, pour commencer de zéro. C'est-à-dire, le principe des communistes, c'est ça. C'est-à-dire
l'égalité.
On met tout à zéro. Mm-hmm. L'argent qu'on possédait ne vaut plus rien. Des valises d'argent, on peut les jeter. Parce que personne n'en veut. Ça ne vaut plus rien. Donc, on repart vraiment de zéro.
D'accord.
C'est pour ça que, donc, du coup, on était obligé de partir, de laisser nos biens, les maisons, etc., tout ça. On peut fermer, hein, mais après, voilà, on sait qu'on ne reviendra pas. Hein. Donc, on prend le minimum sur une charrette, comme ça, on ne peut pas prendre grand-chose.
Donc, on demande au peuple d'être tous au même niveau.
Exactement. On demande
aller.
De partir.
De
voilà,
partir.
De partir. Donc, du coup, j'imagine à l'époque qu'on nous guide, que voilà, vous allez par là et vous y allez. Mmh. On va vous donner un bout de terrain. On a dit, voilà, maintenant, vous arrivez à cet endroit-là, vous allez... Le voyage dure pas mal de temps, hein. Quelques jours. Une fois, on arrive à l'endroit, on vous désigne un endroit, vous allez construire une maison. Tout le monde sera architecte, hein. Architecte, constructeur de maison, tout ça. Rien en plus. C'est-à-dire pas d'outils, rien, tout ça. Voilà, les grandes personnes, puisque moi, j'étais gamin, hein, j'étais jeune adolescent.
J'avais 11-12 ans, on le rappelle.
Voilà. Donc, moi, je ne fais qu'observer. Et les grandes personnes se débrouillent, hein, aller couper des branches d'arbres pour construire des maisons.
Et vous êtes encadré là par les Khmers qui sont là autour de vous? Ou pas?
Oui, ils sont là. De toute façon, ils sont là, puisqu'ils contrôlent.
Ils vous donnent un programme, et voilà, vous avez construit votre maison.
Construit après. À cet endroit.
D'accord.
Voilà. Et après, il y a plusieurs maisons côte à côte comme ça, qui étaient construites par chacun. Hein. On doit construire avec des paillets pour le bois, tout ça. Les bois ne sont pas traités. D'ailleurs, on a subi au bout d'un certain temps, grignoté par des mythes. Hein. Voilà. Donc, c'est des bois bruts qu'on coupe, on a construit avec nous-mêmes, sans clous, sans rien du tout. Voilà. Et donc, du coup,
on vous demande d'arrêter la religion aussi? Pas de religion?
Non, j'ai pas souvenir de ça. La religion, peu importe. En fait.
Peu importe.
Voilà, peu importe.
Pourquoi ce génocide? Pourquoi on tue 2 millions de Cambodgiens à cette époque-là?
Déjà, parce qu'ils voulaient éliminer tout ce qui est intellectuel, les commerçants, tout ce qui est un peu le niveau de vie
élevé.
Assez élevé, voilà, et puis intellectuel pour qu'ils ne se révoltent pas.
Paraît-il que même ceux qui avaient des lunettes étaient des intellectuels, donc
forcément.
Donc voilà, du coup, ils étaient...
Tout à fait. Voilà, par exemple, moi, le jeune frère de mon père, qui était prof, ils étaient exécutés.
Donc on tue 2 millions de personnes comme ça avec des critères en disant intellectuel, commerçant,
voilà, il y a une partie comme ça et il y a ceux qui
un résistant un peu.
Voilà, voilà, tout à fait, oui. Voilà. Et ceux qui sont morts d'une simple blessure, hein, parce que si on se blesse un peu, c'est infecté, hein, infecté, on peut mourir par une simple coupure à la main.
Au niveau de l'international, rien n'a été fait à cette époque? On a laissé faire?
Alors, justement, alors nous, à l'intérieur, c'est comme si vous avez une maison qui est complètement fermée. Vous fermez les volets complètement, vous ne savez pas ce qui se passe. Pas de radio, ni de télé, ni rien du tout, complètement fermé. On est à l'intérieur et on était au courant de rien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. Donc, international, nous, on ne peut pas le dire. Peut-être que maintenant, avec les actualités, tout ça, on peut savoir. Mais effectivement, il y avait des organisations, mais pas pour reprendre le pouvoir, mais pour aider les réfugiés. Mais nous étant habitants à l'intérieur, restés coincés à l'intérieur, nous ne sommes pas du tout au courant de ce qui s'est passé à l'extérieur.
Moi, j'ai eu de la chance d'aller au Cambodge. Je suis allé, ça m'avait d'ailleurs bien secoué, ou ce camp de concentration S21 à Phnom Penh. Ouais. Et on a encore des images, il y a encore les salles hein, de torture, etc. Parce que des gens étaient, il y avait des sortes de camps de concentration où on torturait aussi.
Ben ça, je connaissais pas, puisque en fait, ça, c'est à Phnom Penh.
C'est à Phnom Penh,
ouais. Voilà, c'est à Phnom Penh. Là, j'ai appris comme tout le monde à la télévision. Bon, j'ai vu ce genre d'images. Mais nous, à chaque endroit, c'est un peu différent. C'est pas le même traitement, etc.
Qui était ce Pol Pot alors? Il venait d'où? C'est celui. Il voulait. Enfin, est-ce que tu es un peu au courant de cette histoire-là? Si on
de
ce personnage qui a été un criminel de guerre.
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, Pol Pot, il était venu même jusqu'à Paris, dans le 15e. Bon, je l'ai appris dans une émission BBC. Donc, du coup, j'ai regardé parce que ça m'intéressait. Mais effectivement, il a monté, il a participé, il était adhéré au Parti communiste français à l'époque. Voilà.
Est-ce que la France l'a couvert
non,
à l'époque?
Non, parce qu'en fait, c'est pas le but hein, de la façon dont il réagit, c'est pas la France n'y est pour rien, ni le Parti communiste français. Il n'y a pour rien.
Donc toi, Langois, tu avais 11-12 ans.
Oui.
Tu as des souvenirs encore de cette période,
tout à fait,
tu as des flashs,
tout à fait. Tout à fait.
Alors avec tes parents, vous décidez de quitter.
Alors nous, en fait, on était coincés déjà là-bas pendant. On travaillait déjà dans la chambre, la maison était construite, etc. Et donc, du coup, on était bloqué dans le pays, comme je disais tout à l'heure, une maison fermée avec des volets, tout fermé, on ne sait pas ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, du coup, la situation se dégrade peu à peu. C'est-à-dire que, en fait, le Cambodge, en termes de nourriture, normalement, on ne manque pas de nourriture au Cambodge. Il y a tout ce qu'il faut pour nourrir le peuple sans problème. Mais avec l'organisation, même, ils nous demandent de cultiver le riz. On n'a pas le droit de tout avoir ce qu'on a récolté. Hein? Il y a deux récoltes par an, je crois. Donc, c'est pas rien. Des poissons, il y en a partout. Dès qu'il y a un flaque d'eau qui coulait jusqu'à. On voit des poissons partout. Donc, c'est pas ça qui manquait, mais on meurt de faim parce que. La façon dont ils font, ils nous privent de nourriture en fait. Et donc du coup, alors.
Donc vous restez combien de temps? Vous construisez cette maison en bambou
après
partir dans les champs.
Voilà, dans les champs, travailler tous les jours, les grandes personnes.
Toi, t'allais à l'école?
Non, pas du tout. C'est fini l'école.
Fini l'école.
Voilà.
Toi, t'allais travailler aussi dans les champs.
Alors oui, nous sommes les enfants sont trop petits. En fait, moi j'étais trop petit, donc je peux pas trop travailler vraiment dans les champs. Hein. Je peux aller aider les grandes personnes. D'ailleurs, pour travailler la terre, pour retourner la terre, tout ça, normalement, on utilise des tracteurs. Mais là, il n'y a plus de tracteurs. On n'utilise même pas des animaux pour tirer dessus. J'ai l'impression que c'est vraiment pour punir. On utilise les adultes de tirer à la place des animaux. Et les enfants, on a besoin un peu de poids. Bon, on monte dessus et on monte sur le je ne sais pas comment on appelle ça, pour labourer la terre, on monte dessus pour faire du poids. Voilà. Et après, nous, on essaie d'aller chercher de la nourriture.
Tu te rends compte quand même qu'il se passe quelque chose
pas
normal.
Pas normal et inquiétant.
Et inquiétant. Et donc là, ton père décide, enfin ta famille, de partir.
Voilà, parce que après, il s'est dit que. Parce qu'en fait, à chaque fois, ça change, de situation change. Et on arrive à un moment donné, il a entendu dire qu'ils vont récupérer des enfants, séparer des parents, récupérer, faire partir les enfants de chez eux pour aller travailler ailleurs, ou je sais pas, en fonction de leur taille, etc., pour voir si c'est trop petit. Bon, ça les intéresse pas. Et donc, du coup, là, mon père a décidé, il dit, mais non, il n'est pas question qu'on nous enlève nos enfants, tout ça, et puis, en restant là-bas, on va finir par mourir, de toute façon. Tant qu'à mourir, sûr de mourir, essayer de s'évader. Si on doit mourir, donc c'est la même chose, mais avec un peu de chance, on peut s'en sortir.
Alors, plus qu'essayer, vous l'avez fait.
Oui. Alors, c'était pas facile pour mes parents. Hein. C'était pas facile parce qu'en fait, nous sommes une famille de 5 enfants. Nous vivons, y a moi qui se trouve au milieu, mon jeune frère et ma grande sœur et mes parents et les grands-parents. en même temps. Grands-parents paternels qui vivaient sous le même toit que mmh. nous. Hein, on les a embarqués avec nous, mmh. on a construit et ils vivaient là-bas. Et donc, alors, c'est quand même un handicap. Et puis mes parents, mon père, il ne connaît pas vraiment pour s'enfuir. Alors, pour s'enfuir, on ne doit pas marcher au bord de la route, ni prendre la route, tout ça, parce que tout ça, c'est contrôlé. Le seul moyen, c'est de s'enfoncer dans la jungle. Et là...
Donc concrètement, il part un matin, un soir, baluchon, il prend les grands-parents.
Non, il y a une il faut se préparer. Ouais. Déjà, lui, il sent pas capable. Donc du coup, il est allé voir quelqu'un, négocier des jeunes hommes en forme, etc., qui connaît un peu la forêt, la jungle, etc., et qui veut s'enfuir également. Donc il a négocié. Moyennant, lui payer un peu, pas de l'argent, de toute façon l'argent ça vaut plus rien, avec de l'or qu'on a autour de cou, etc., en échange, en disant est-ce que je peux pas venir avec vous, tout ça, mais on a des enfants et tout. Alors ces personnes-là hésitent un peu parce qu'il y a quand même moi et mon jeune frère qui est quand même très jeune, et puis les grands-parents, c'est pas possible quoi, pour partir comme ça. Et donc du coup, alors mon père a fini par les convaincre en disant que voilà, dans ce cas-là, on va laisser les grands-parents là-bas.
D'accord. Vous laissez les grands-parents sur place.
Sur place, on ne peut pas les...
On ne peut pas les emmener.
Non.
Et vous partez donc
voilà,
les enfants.
Et c'est risqué pour eux parce qu'on ne sait pas ce qui se passait après. Hein.
Parce qu'ils vont s'en apercevoir, de toute façon, les
Khmer. De toute façon, chaque jour, quand on va travailler, c'est comme à l'école, il y a des appels, on va voir qui manque.
D'accord.
Qui manque, pour, c'est comme au pointage en quelque sorte. Hein. Et on va tout de suite savoir qui n'est pas là.
C'est très difficile de quitter ses grands-parents.
Exactement.
On s'en va et on ne sait pas ce qui va se passer pour vous en plus.
Voilà, on ne sait pas. Mais bon, là, mon père il a bien réfléchi et tout ça. Il dit voilà, de toute façon, si on est là, on va se faire tuer, etc. Donc, du coup, de toute façon, il faut décider. Et entre parenthèses, ils n'ont rien eu, mes grands-parents. Parce que j'ai l'impression qu'ils ont respecté quand même les personnes âgées. Mm-hmm. Curieusement.
Vous avez eu des nouvelles après, on en parlera après.
Oui, tout
mais
à fait.
Des
tout à fait, oui, tout à fait, d'accord. On en parlera.
Et voilà. Donc, du coup, vous partez.
Donc, du coup, il y a la partie. Voilà. Donc, du coup, il s'agit de partir dans la jungle. Mm. Donc, il faut quelqu'un qui maîtrise un peu la jungle. Hein. Pas nous. Nous sommes des gens qui. Nous vivons dans des villes, on ne sait pas ce que c'est la jungle. Hein. Donc, c'est quand même... ça donne pas... tout le monde n'est pas capable de le faire. Et donc, du coup, on a négocié ça. Mon père avait négocié ça. Et donc, du coup, il y a la partie préparation à faire, c'est-à-dire préparer les nourritures. On a échangé, on fait des trocs contre un peu plus de riz. Ensuite, on a fait cuire le riz, sécher au soleil pour alléger le poids et qu'on peut le consommer facilement. C'est-à-dire qu'on peut le consommer comme ça, voilà, puisque c'est déjà cuit. Hein?
De l'eau.
Voilà, de l'eau, etc. Alors, le boussole, normalement, il faut quand même se diriger parce qu'on n'a pas de route. Mm-hmm. Hein, donc, du coup, dans la jungle, il faut avoir une direction.
Oui, il faut savoir qu'il ne fallait absolument pas suivre la route pour éviter de tomber sur des barrages de
Khmer Rouge. Exactement, voilà,
le
plus
dans la
possible
jungle,
dans la jungle.
Direction de frontière qui était...
La Thaïlande. Pourquoi? Parce que la Thaïlande, on a une frontière commune. Mmh. Et donc, du coup, là où nous étions, c'est pas très loin. Mmh. Hein, peut-être une centaine de kilomètres. Voilà. Et donc, il faut préparer tout ça, la boussole. Alors, j'ai appris une chose. On peut faire une boussole à l'aide d'une lame gilet à l'époque. Tu sais les lames qu'on recharge.
Ouais, oui,
les
lames. Quand on va chez le barbier, on a encore ça.
Voilà, exactement. D'accord. Alors, on prend cette lame-là, on pose sur l'eau tout doucement.
Ouais.
Ça reste flotter sur l'eau.
Ouais.
Et ça oriente toujours de même côté. Peu importe vers le où. Après, il suffit d'étalonner. On sait que le nord est là. On fait un trait, on dessine dessus, on dit que sur la lame, on dit que cet endroit, c'est le nord.
D'accord. Ah ben ouais, c'est bon à savoir.
On n'a pas eu besoin, hein, mais c'était une astuce qu'on a préparé, même ça aussi.
D'accord.
Donc voilà. Et donc, du coup, la nourriture, etc. Et puis, c'est un secret. Hein, ça veut dire que les voisins ne sont pas au courant. Mm. Nos voisins, même famille, ne sont pas au courant.
Donc, vous partez en pleine nuit?
Non.
Ça se passe?
Un matin.
Un matin. Voilà. Ça, t'as le souvenir?
Une fois tout est prêt, on est parti un matin très tôt avant que les gens se rentrent au travail et qu'ils vont.
Compter
ils vont savoir
et s'apercevoir que vous êtes parti.
Voilà, et là, ils viennent forcément nous chercher.
Donc direction la jungle, vous rentrez dans...
Voilà, au départ c'est pas encore la jungle, hein. C'est encore, donc très très tôt on commence à marcher et tout, etc. On arrive dans des rizières, au début des rizières, ensuite on s'enfonce un peu dans la forêt, et puis on avait de l'herbe très très haute, et puis quand j'étais petit, l'herbe est encore plus haute, hein, par rapport à moi évidemment. Voilà, donc du coup on s'enfonçait de plus en plus dans la jungle.
Et tu puis, ressens la peur, toi, à cette époque? Tu sens qu'il peut y avoir un danger?
Oui,
de ce que vous êtes
parce,
en train
que,
de faire.
Parce que moi, j'écoutais les parents quand ils discutaient comme ça. Ils discutaient au moment où ils négocient le départ. Nous sommes une dizaine quand même. Hein.
Ah, d'accord.
Hein, nous ne sommes pas les seuls. Hein. Nous ne sommes pas partis à cinq seulement. Hein. Il y avait quelques personnes qui nous aident. Et puis il y avait une jeune femme qui est une pharmacienne. Qui était pharmacienne. D'ailleurs, elle a apporté quelques médicaments, vitamine C, tout ça qu'elle avait de sa pharmacie à l'époque. Et puis son père qui est un peu plus âgé que mes parents.
Donc vous rentrez dans cette fameuse jungle direction
Exactement.
La Thaïlande. Et là, vous passez combien de jours dans la jungle?
Alors, en tout, je crois, c'est une douzaine de jours.
Douzaine de jours.
De marche, voilà.
D'accord.
Voilà, douzaine de jours. On n'a pas prévu autant de temps.
Et vous avez croisé personne pendant ce périple?
Si, justement. Alors, pendant ce périple-là, on a des journées, on a des moments un peu difficiles. Ça dépend des jours. Il y a des jours où nous sommes tournés en rond. C'est-à-dire on a marché toute la journée et le soir, on arrive au même endroit. Alors, malgré que les gens...
Le problème de la jungle, quoi.
Voilà. Alors, malgré que les personnes qui sont censées de nous guider, tout ça, qui connaissent bien quand même, normalement, hein. Mais même eux, ils sont trompés. Donc, du coup, on a marché, on a perdu une journée comme ça. On est revenu exactement au même endroit.
D'accord.
Donc, il y a des journées comme ça. Il y a des journées où nous n'avons pas du tout d'eau. Parce qu'on récupérait l'eau au fur et à mesure. On en trouve de l'eau dans la nature, hein, dans des rivières ou des lacs ou des flaques d'eau, etc. On en trouve. Et donc, du coup, des journées, une seule journée sans eau, c'est très difficile. Très, très difficile. Parce que sans nourriture, c'est ce que ça nous est arrivé, sans nourriture. Parce qu'au bout de 5-6 jours, on n'en a plus. Et il faut continuer. On n'était pas encore arrivé. Donc, il faut continuer sans nourriture. Les premiers jours, on a eu faim. Et à partir de deux ou troisième jour, on n'a plus faim. On se sent de plus en plus faible, mais on n'a plus envie de manger vraiment. Mais par contre, l'eau, c'est vraiment...
plus difficile.
Voilà, et puis surtout dans ce milieu chaud, tropical,
Ouais, il fait chaud au Cambodge. C'est vrai, c'est moite, c'est humide.
C'est moite, voilà. Et donc, du coup, une journée... À la limite, si on sait que le soir, on va trouver de l'eau...
Mais vous n'étiez même pas sûr.
Voilà, c'est ça le plus difficile.
Vous dormiez à la Belle Étoile, là, vous
Voilà, tout à fait. Alors, et la nuit, alors, dans la jungle, il faut savoir qu'il y a des dangers d'animaux sauvages. Donc, du coup, il faut faire un feu. Donc, la personne qui nous guide, là, il dit, voilà, dans la jungle, c'est vraiment dangereux. Donc, du coup, il faut faire un feu. Sauf que quand tu fais le feu...
C'est là où tu es repérable.
Voilà, tout à fait. Tu as tout deviné. Et donc, du coup, mais on n'a pas trop de choix, on fait quand même le feu et puis on va plus au fond possible dans la jungle. Ils ne vont pas traîner dans la jungle. Hein. Maintenant, une fois, ils ont pris le pouvoir et c'est plutôt dans des villes qui profitent, en fait.
Qui as-tu croisé est-ce que vous avez croisé du monde pendant ce périple dans la jungle? Est-ce que des villageois
Non. Des villageois dans la jungle.
Non, oui, qui pouvaient, je ne sais pas, promener, chercher des choses. Vous avez rencontré
personne. Dans la grande jungle, il n'y a personne.
Rien du tout.
Il
n'y
a personne, mais sauf qu'à un moment donné, je ne sais plus, au bout de combien de jours, on a entendu de loin les gens qui s'amusaient, qui rigolaient, ils s'amusaient dans l'eau, au bord de rivière, qui se baignaient dans la rivière. Et nous sommes approchés un peu en regardant de loin quand même, parce qu'il faut, il faut se méfier. Et on a eu bien fait de se méfier. Ce sont des Khmer Rouges. On a vu qu'ils sont en train de se baigner, de s'amuser, déposant leurs armes au bord de l'eau. Donc c'est bien eux. Les vêtements noirs, parce qu'il faut savoir que les Khmer Rouges s'habillent en noir. en noir et avec une espèce d'écharpe très remarquable. Roux. Voilà. Ouais. Et puis des chaussures bricolées avec des pneus découpés. Parce que c'est très costaud, ça. Là, il peut marcher sous les choses sans se blesser. Et ça, c'était typiquement Khmer Rouge. Et c'était bien eux, puisqu'il y avait des armes.
Mais le Khmer Rouge aurait pu être ton ami d'enfance, aurait pu être un voisin, aurait pu être... Tout le monde pouvait devenir Khmer Rouge, en fait.
D'ailleurs, entre parenthèses, quand nous étions encore dans le Khmer Rouge, là-bas, pas encore parti dans la jungle, un des chefs fait partie d'une des familles dont mes parents ont comme employé de maison. Et ça, c'est extrêmement risqué. Tu te rends compte, employé de maison, et lui, toi, t'es le patron, et maintenant, il est le chef de Khmer Rouge.
C'est lui qui a le pouvoir...
Justement, ils n'aiment pas des gens comme ça. Ils n'aiment pas les gens qui ont des moyens, qui ont une personne qu'on utilise pour te servir dans la maison, etc., tout ça. Et on a eu peur qui découvre ça.
Voilà. Avant de continuer l'histoire de ton périple, parce qu'on a encore un peu de temps, beaucoup de temps même, juste la petite parenthèse, à la fin de tout ça, est-ce qu'il y a une vengeance envers ces Khmers rouges du peuple cambodgien? Est-ce qu'ils ont été jugés?
Jugés, oui. J'ai entendu dire, bon, j'ai appris ça comme toi.
Tu as subi de loin, tout à fait. D'Europe. Mais même, je ne parle pas des dirigeants ou ceux qui avaient le pouvoir, mais le simple villageois qui devenait Khmer Rouge,
non, pas ceux-là, ils ont rangé
les armes, ils ont fait OK.
Voilà, ils sont pas connus, ceux-là. Non, c'est surtout des grands dirigeants.
Encore pas très longtemps, d'ailleurs, il y a encore des dirigeants.
Des jugements.
Il
y en a qui sont morts avant d'être jugés. Mais en plus, ils ont eu des longues vies, en plus.
Ouais.
Espérance de vie, plus de 90 ans.
Pourquoi on a attendu autant avant de les juger? Ils étaient emprisonnés, en tout cas.
Oui, voilà. Ouais.
D'accord.
Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi.
Donc tu es dans la jungle, tu vois ces Khmers rouges se baigner, vous êtes derrière les grandes herbes.
On a stoppé tout de suite. Par chance, mon frère n'a pas fait de bruit.
Ton petit frère.
Parce qu'il était petit. Hein. Les enfants, en général, risquent de faire du bruit. Hein. Ils n'étaient pas loin. Hein. On les entend, ils peuvent nous entendre. C'est réciproque. Donc, et comme dans la jungle, il y avait des grands arbres, et donc du coup, c'est assez espacé à cet endroit-là. Pour se cacher, c'est pas évident. Il y a quelques abus. Ben, on s'est dit, on ne bouge plus. On se met par terre, le plus bas possible, et on fait pas de bruit. Et on espère que eux ils parlent, mais pas dans notre direction, parce que dans la jungle il y a pas de roof. Ils peuvent très bien venir en rentrant chez eux, passer par là où nous sommes, en espérant. Et s'ils passent par nous, là c'est fini. C'est fini. Ils nous tirent dessus sans même poser des questions. C'est ce qui est arrivé à pas mal de gens qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout.
Et là, tu es en face de moi, donc ils ont pris une autre direction. Ils ne sont pas venus vers vous.
Voilà, se sont calmés, le bruit, il n'y avait plus de bruit. Ils sont partis ailleurs. On était sauvés, en fait. Voilà. Donc
vous continuez votre marche.
Donc on continue la marche, mais toujours pas arrivé à la frontière. Donc du coup on n'a plus de nourriture. Et par chance, de temps en temps, on a rencontré des tortues. Le pauvre tortue qui traînait là devant nous, on les a attrapés.
D'accord.
On les a fait bouillir.
Ah, faut bien manger là. Il y avait pas de protection animale.
Ah bah là, hein, voilà, ouais. là, c'est pas pour le plaisir, c'est pour se nourrir, hein. Comme ça, on a trouvé pendant trois tortues.
D'accord.
Trois fois à quelques jours d'espacement. Et aussi, on a aussi trouvé du miel naturel, pas des ruches comme ça. Et puis, les personnes qui étaient avec nous, ils maîtrisent bien ça. C'est-à-dire qu'ils se mettaient à main nue pour aller chercher du miel sans se faire piquer. Voilà, je sais pas comment ils s'est débrouillé.
Ils avaient la technique.
Voilà, ils avaient la technique.
De toute façon, quand on a faim, je pense qu'on trouve la technique.
Ouais, mais oui, c'était impeccable. Donc, du coup, on a eu du miel là, c'était vraiment bien. Et puis, un peu de vitamine C que la pharmacienne nous a passé. Voilà. Et donc, du coup, bon, on continue. Et puis, un jour, on a vu une rivière. On s'est dit, ah, c'est le frontière, parce qu'en général c'est matérialisé par quelque chose de naturel, soit une montagne ou une rivière, etc. Et là on s'est dit, ah, l'autre côté c'est la Thaïlande. Donc du coup on s'est précipité, C'était un matin. Et donc, du coup, et moi, je me suis glissé. Bon, il faut descendre, hein. Faut descendre jusqu'à la rivière. Il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Mais il y a un creux où il faut descendre pour traverser de l'eau et puis remonter. Et en arrivant au bord, bah, je me suis glissé. Il y avait plein de ronces. C'est un peu comme des murs, là, un peu. Mm-hmm. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis glissé comme ça jusqu'en bas, avec plein d'épines sur les doigts, sur la peau, etc., jusqu'en bas. Et une fois on a traversé, finalement, c'était pas du tout.
C'était pas la Thaïlande ?
Non.
Ah bon, d'accord. C'était pas encore la Thaïlande ?
Non, rien à voir, rien à voir.
Mais tu vas y arriver quelques jours après, malgré tout, vous arrivez quand même à passer la frontière et à arriver en Thaïlande.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Au bout de 12 jours, hein, 12 mm-hmm. jours, on arrivait un jour, on aperçoit de loin une espèce de champ déjà. Je ne sais pas si c'était des champs de maïs ou du riz, je ne sais plus. C'est un peu flou pour moi maintenant. Et puis, il y a un bonhomme qui nous a repérés, qui est habillé en noir, encore une fois.
La crainte.
La crainte. Mm-hmm. Il était tout seul. Et il nous fait signe. Il dit, venez, venez. Il parle très bien le cambodgien. Il dit, venez, venez, vous êtes sauvés. Vous êtes en Thaïlande, il disait.
On va se retrouver juste après.
Oui.
Une petite pause musicale pour continuer.
Ton arrivée
en Thaïlande. Tu vas y passer quelques jours et tu es en face de moi aujourd'hui en France. Et évidemment, vous avez aussi débarqué en Europe. Mmh. En Europe, quelques mois après. On se retrouve tout de suite après avec un chanteur que tu as choisi.
Oui.
Que tu aimes bien. C'est Sting. Alors on va
Sting,
l'écouter.
Exactement.
Et on se retrouve tout de suite sur Cause Commune.
Merci.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. Faces, the mask I wear is one.
Retour sur Cause Commune 93.1 à Paris en Ile-de-France ou peut-être sur internet si vous êtes en région. Nous sommes avec Langois qui nous raconte ce qui s'est passé. Lui qui était au Cambodge et qui a fui les Khmers Rouges. On en était à... C'était assez passionnant. Traverser toute la jungle avec sa famille de peur de tomber. Il nous rejoint. Il était parti boire un verre d'eau. On va le dire comme ça. Et avec nous, Langois, il faut que tu remettes ton casque. Voilà. Et donc, tu nous disais en effet que tu as fui le Cambodge avec ta famille pour fuir cette violence, tout ce qui se passait là-bas et éviter en tout cas ce génocide, on le rappelle, 2 millions de morts au Cambodge dans les années 70. Et vous arrivez enfin en Thaïlande après 12 jours de traversée de cette fameuse jungle de marche et vous tombez sur un Thaïlandais qui parle parfaitement cambodgien.
Oui, c'est un frontalier.
Un frontalier qui vous dit ça y est, vous êtes sauvé.
Voilà, vous êtes sauvés et donc du coup, il est là pour nous accueillir, hein, mais sympathique. Donc du coup, il dit venez chez moi. Je vais vous d'abord préparer à manger parce qu'ils savent que je crois que c'est pas la première fois qu'ils
voyaient des Cambodgiens débarquer, voilà. Qui passaient la frontière.
Voilà, qu'ils les récupèrent comme ça. Parce que vous allez savoir pourquoi ils nous récupèrent comme ça. Voilà, donc du coup...
Bah vas-y, on veut savoir tout de suite. Pourquoi il avait un intérêt ou...
Oui, tout à fait, tout à fait.
Quel était l'intérêt ?
C'est-à-dire de nous prendre ce qui nous reste, en fait.
Ah,
d'en profiter.
Vous volez.
Voilà.
Vous aviez un peu d'or, un peu de trois petites
exactement,
choses.
Surtout de l'or, des montres, etc.
Bon, l'hospitalité est limite, quoi.
Oui, mais bon, il nous a quand même bien accueillis. Hein, en échange, voilà, il voulait quand même gagner un peu quelque chose. Quoi. Voilà, et donc du coup, alors, il dit, venez avec nous, venez avec moi, je vais vous préparer à manger, dormir chez nous, etc., tout ça. Vous lavez, bois, et puis...
Les sabots de bac d'or, quoi.
Voilà. Il dit que ça c'est provisoire, par contre après je vous accompagne tous au camp de réfugiés. Ben là on était surprise, mais c'est quoi ce camp de réfugiés? Comme je disais tout à l'heure, nous étions au courant de rien de ce qui se passe à l'extérieur, comme une maison fermée, comme ça on ne sait pas. Là pour nous, on voulait partir vivre en Thaïlande.
C'était votre objectif, de quitter le Cambodge, vivre en Thaïlande.
Exactement.
À cette époque-là, un pays en paix. Il se passe
toujours en paix.
D'ailleurs, c'est toujours en paix. On peut aller en Thaïlande en ce moment. Il y a pas de problème.
Exactement, toujours en paix. Et puis, c'est un bon pays que mon père connaisse bien.
Et l'État thaïlandais avait mis en place des camps de réfugiés à cette époque.
Voilà, parce que la Thaïlande ne peut pas accueillir les réfugiés. Et donc, du coup, là, nous étions pas du tout au courant. Attention, on n'a pas dit tiens, je vais pacter comme ça. On va aller en France, etc. Pas du tout. Nous, c'était la Thaïlande. Donc, du coup, il nous a parlé de camp de réfugiés. Une espèce de camp, on ne peut pas aller ailleurs, mais il faut rester dans le camp. Donc, du coup, il dit, voilà, je vous accompagnerai le lendemain. Comme ça, vous allez prendre votre temps, vous reposer, manger, etc., prendre un peu de force. Et vous venez là, et puis je viendrai avec vous, je vous accompagne là-bas. Et qu'après ce camp-là, vous pouvez partir, vous devez partir dans un autre pays définitif, un pays d'accueil. On a le choix. Il y a plein de pays.
En Occident.
En Occident. Exactement.
Vous aviez le choix.
On a le choix. Exactement. Il y avait énormément de pays.
Lesquels?
Alors, les premiers, c'est les États-Unis. Mm-hmm. Ils sont plus riches, hein. Ils sont plus grands.
Donc
plus
beaucoup
riches.
De Cambodgiens sont allés aux États-Unis à
Exactement.
Cette
Moi, D'accord. j'ai même ma famille, une partie de ma famille, mes cousins, tout ça, ils sont là-bas.
D'accord.
Voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore Nouvelle-Zélande et Australie. Ils sont arrivés après pour prendre d'autres réfugiés. Mais à mon époque, non, il y avait États-Unis et surtout l'Europe. Mm-hmm. L'Europe. Beaucoup de pays d'Europe. Hein,
ouais. Et dont la France, que la France a une histoire quand même avec le Cambodge, oui, oui. Le Cambodge, Vietnam, Laos,
l'Indochine. Même des pays qui n'ont pas d'histoire avec, ils se sont... et là, je ne suis pas trop au courant de comment ça s'est organisé. Et ils se sont mis d'accord, voilà, tel pays prend combien de réfugiés. Et là, voilà, donc du coup...
Donc ce camp de réfugiés, c'était une étape.
Oui, une étape, déjà,
avant
pourquoi
de partir...
Avant de déposer le dossier pour voir qui souhaite pacter où.
D'accord.
Voilà, parce qu'on ne vit pas en Thaïlande et on ne peut pas en fait.
Pourquoi ?
Parce que le
gouvernement thaïlandais ne souhaitait pas
voilà,
que les Cambodgiens travaillent.
Voilà.
Donc vous restez combien de temps dans ce camp ?
Alors donc du coup, alors ma famille c'est particulier par rapport à d'autres. Ça c'est mon père. Hein. Donc à lui ça lui plaît pas du tout. Alors. On va revenir à la personne qui nous a.
Oui.
Hein, on n'est pas encore quitté chez lui.
Ah oui, pardon, vous vous réveillez le matin, vous passez une bonne nuit.
Voilà,
manger,
voilà. Alors, donc le soir, il commence déjà à dire à mes parents que je vous conseille fortement de me confier de tout ce que vous avez avant de rentrer dans le camp. Parce que sinon, vous allez tout perdre. On va vous tout prendre là-bas, dans le camp des réfugiés. Et ça, déjà, en route, il nous a montré qu'il a un pistolet, déjà, dans sa poche de son pantalon pour dire, voilà, je vous protège avec ça, mais en même temps, je pense qu'il montre pour dire que, attention, j'ai le pistolet, j'ai
vous
le pouvoir.
Vous n'avez pas trop le choix, donc
voilà.
J'ai le pistolet.
Mais le pistolet, quand il montre intelligemment pour dire que, ne craignez pas, je suis armé. Bon, il est assez intelligent pour voilà. Mais mon père, il est assez intelligent pour comprendre le message. Voilà.
On va vous laisser, en effet, les choses.
Voilà, ça, oui, comme ça, vous gardez en sécurité, n'est-ce pas ? En sachant que c'est pour lui. Hein. Voilà, voilà. Mais mon père, la vie est sauvée. Rien à faire du matériel. Voilà. Le plus important, c'est que tout le monde ait envie.
Et envie.
Voilà. Voilà. Et donc, effectivement, le lendemain, on est allé dans un camp. Mais il y avait du monde. Hein. C'est dans ce camp-là, je crois, je me rappelle, c'est au mois de janvier où il fait un peu frais. C'est le mois où, dans ce pays-là, il fait un peu frais, j'ai vu même un peu froid d'ailleurs.
Donc là, tu retrouves des compatriotes,
oui.
Plein de Cambodgiens.
Il y a des gens qui étaient là avant nous, qui sont fuis avant nous, qui sont arrivés avant nous, qui sont venus nous voir, par curiosité. Voilà, à chaque fois quand il y a une nouvelle personne qui arrive.
De quelle région tu es.
Voilà, une personne qui arrive, et surtout d'un autre aspect qui est... Comme des je sais pas si tu as déjà vu des photos des gens dans des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, ben on ressemblait à eux, c'est-à-dire de la peau sur nos os, rester debout à peine, voilà. Donc du coup les gens sont venus nous voir et tout pour dire voilà, ici on va vous soigner, etc. On a reçu des vaccins, des soins de médecins, je sais pas si c'est Médecins du Monde ou Médecins sans frontières à l'époque. Croix-Rouge, etc. Plein de pays qui sont là pour nous, qui étaient là pour nous. Donc, c'est bien, c'est vraiment bien, bien organisé. Hein. On nous a donné un endroit pour dormir, on nous distribue la nourriture, comme une espèce de marché, mais on est allé chercher nos rations de nourriture gratuitement. Hein.
Donc là, c'est un peu...
Mais on est enfermé, hein, d'accord ?
Vous êtes enfermé, mais c'est le soulagement. Vous êtes soigné, vous mangez,
oui, voilà.
Vous soufflez un peu.
Voilà.
Et là, on vous demande de remplir des dossiers,
voilà.
Pour la destination que vous souhaitez...
voilà, on nous a présenté des différents pays.
D'accord.
Voilà.
Donc États-Unis, France...
Belgique, l'Allemagne...
Et ton papa décide les États-Unis. Lui, non, son premier choix, c'était l'Amérique.
Non, pas du tout.
Ah, d'accord.
Absolument pas. Ah non, son premier choix, et c'était pas prévu, tout ça. Hein, tout ça, c'est vraiment... On n'était pas du tout au courant. Pour lui, c'est la Thaïlande.
Ah, mais c'est la Thaïlande. Mais il s'aperçoit, on lui dit que c'est pas possible. Enfin, en tout cas...
oui,
on,
c'est
il pas
possible. Voilà, puisque là, il sait qu'il y a un camp de réfugiés. Donc, du coup, bah, on est enfermé là-dedans, en quelque sorte. Hein. C'est pas aussi fermé que le Cambodge. On va pas nous tirer dessus. Hein.
Mais dans un camp de réfugiés toute sa vie en Thaïlande, c'est pas le... C'était pas le but, quoi.
Non, de toute façon, c'est pas le but. C'est vraiment une étape. Hein. C'est tout. Hein. Les gens qui sont là-bas, c'est pas pour rester à vie. Hein. D'ailleurs, le gouvernement thaïlandais ne veut pas avoir les camps de réfugiés à vie non plus. Hein.
Et donc, il choisit la France.
Non, pas du tout.
D'accord.
Et je choisis toujours la Thaïlande.
D'accord, mais au bout d'un moment, quand il s'aperçoit que c'est plus possible, bah oui.
Comment faire? Bah, il s'est organisé d'autres évasions du camp.
Ah d'accord, il a fui le camp de réfugiés.
Voilà, avec toute sa famille, cette fois-ci, les cinq. Nous sommes cinq, il a pu aller voir des gens qui possédaient une moto, etc. Il nous a fait sortir un par un jusqu'à l'extérieur du camp. Et il a retrouvé des gens où il travaillait à l'époque parce qu'il fait des importations des produits thaïlandais pour son magasin quand il était au Cambodge. Donc du coup, on est arrivé dans cette ville-là qui est pas très loin du Cambodge. Et donc du coup, il a retrouvé cette fournisseur qui était son ami. Il nous a aidés sans papier. On a réussi à quitter le camp. On est arrivé comme ça, en ville, sans rien du tout. Il nous a donné des vêtements, un peu d'argent, etc. Parce que le but, c'est de continuer notre chemin, d'aller à Bangkok.
D'accord.
Voilà. Et nous sommes parvenus à arriver jusqu'à Bangkok. Sans papier, sans vraiment pas de revenus. Hein. Donc du coup, à chaque fois, moi, j'étais petit. Et donc du coup, il m'a inscrit à une société pour apprendre en même temps et surtout pour gagner un peu d'argent, qui fabrique des choses électroniques, etc.
Donc vous avez habité à Bangkok pendant une période.
Oui.
D'accord.
Pendant 6 mois.
Pendant 6 mois.
Oui, 6 mois comme un clandestin, en fait. Sans papier.
Sans papier.
Voilà. Sans papier pendant 6 mois. On vit comme ça et puis un jour les policiers sont venus sonner à notre appartement. On habitait dans un immeuble en 12e.
Dénonciation, sûrement.
Sûrement, les voisins.
Les voisins.
Parce que ça s'entend. Mm-hmm. Quand on parle, déjà, on ne parle pas. Et même si on essaye de parler, il y avait des accents, etc. On sait qu'on n'est pas... Voilà.
Donc,
du coup, à mon avis, des voisins ont dénoncé.
Mm-hmm.
Donc, il y avait des policiers qui sont venus sonner. Moi, j'étais encore dormi par terre parce que c'est juste une pièce. Hein. Donc, du coup, on dort tout dans la même pièce. Et donc, du coup, j'ai entendu dire, les policiers sont venus, etc. Tout ça, ils nous ont demandé de quitter
l'appartement.
Oui, et de rentrer dans un camp de réfugiés et de partir ailleurs. Et donc, du coup, il y a plusieurs camps de réfugiés. Donc, du coup, mon père, il a pas trop de choix. Il dit, on peut pas continuer à vivre comme ça, sans papier, ça mène à quoi? Ça mène nulle part, finalement. Donc, du coup, il a dit que de toute façon, cette fois-ci, il n'a pas vraiment de choix. Là. Donc, du coup, il a dit, on va rentrer dans un camp de réfugiés. Donc, on a sélectionné un autre camp de réfugiés. On est allé dans un autre camp, en fait, c'est plus le même camp.
Mm-hmm.
Il y avait plusieurs camps. Hein. Donc, nous sommes rentrés dans un camp, dont on nous a accueillis. Il n'y a aucun problème. Hein. C'est pas parce qu'on a fui le camp qui nous accepte plus. Hein. Non, il n'y a aucun problème. Et là, on a déposé les dossiers. Et là, effectivement, tu avais raison tout à l'heure. Mon père voulait États-Unis parce qu'il a entendu dire que pour les affaires, pour monter un commerce, etc., c'est quand même plus facile. Il y a moins de paperasse. C'est tout ce qu'il a entendu dire. Donc, du coup, il préfère quand même États-Unis. C'était la Californie, je crois.
Pas mal.
Ah oui, c'était bien.
C'était voilà. Bien. Hein. T'as fait du surf.
Voilà. Voilà, au lieu de venir parler ici ce soir.
Bah ouais. Et finalement.
Et finalement.
Finalement, les États-Unis, ça n'a pas été.
Il y a trop de demandes.
Trop de demandes.
Oui,
pour l'Amérique.
Ils prennent beaucoup de monde. Hein. Ils prennent beaucoup de monde aux États-Unis par rapport à la France. Mais il y a beaucoup de demandes quand même. Donc, du coup, nos noms tendent à tomber. Il a déposé en même temps quand même la France. Et la France nous a accepté quasiment tout de suite.
Donc, il y a un dossier. Qui est étudié et on dit ok pour la famille, c'est bon, on vous accepte.
Voilà.
On prend un avion qui est payé par l'État français.
Exactement, tout est organisé.
Tout est organisé.
Ah oui, c'est vraiment bien fait. Mais franchement, à l'époque, c'est plus comme maintenant. Hein.
Là, c'est un peu différent en ce moment-là.
Oui, alors peut-être, voilà. Ouais. Alors à l'époque, c'était même vraiment bien organisé. C'était pris en charge de A à Z. C'est-à-dire, une fois que tu es accepté, il y a un autocar qui arrive, on dit voilà, un telle date, rendez-vous, on monte dans l'autocar, on nous amène à Bangkok et on nous vaccine.
D'accord.
On fait du papier parce qu'on n'a pas de papier, on n'a rien, zéro papier. Donc, du coup, on a fait du papier comme ça, on te demande quel âge j'avais vu, quelle date de naissance, comment tu t'appelles, etc. Et puis tu signes, on te fait un papier. Et des vaccinations, puisqu'il y a des vaccins obligatoires. pour rentrer en France ou voyager en Europe. Donc du coup, on était vaccinés, on a resté, je crois, pendant une semaine. C'était pas terrible. L'endroit, je me souviens, j'ai hâte de quitter cet endroit à Bangkok. Ça sentait mauvais, et puis les gens dormaient comme ça, matelas par terre, plusieurs personnes, et puis c'était pas, voilà, c'est pas très, 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 très bien. J'étais vraiment, à l'époque là, j'étais vraiment pressé de vraiment quitter.
Et donc vous prenez un vol et vous arrivez en France, à Paris?
Tout à fait. Donc du coup, on nous a amené jusqu'à l'aéroport, on nous a embarqué dans un 747, je me rappelle. Et donc du coup, on a fait
un... On est précis. Il nous reste 5 minutes pour que tu nous racontes la fin de ton histoire. Tu arrives en France,
oui,
donc
voilà.
À Paris.
À Paris, mais sauf que donc du coup, on est logé pendant quelques temps à Créteil, dans un camp des foyers des jeunes travailleurs.
D'accord.
Voilà. Comme
en
ça,
quelle année ça, du coup?
C'est alors en 77.
Donc toi, tu parles pas évidemment un mot de français.
Non, pas du
ta
tout.
Ta famille non plus. Vous arrivez
non
là
plus.
En Europe,
en Europe,
un autre climat, une autre atmosphère.
Exactement. C'est ce que mon père voulait pas au départ.
Oui.
Un autre climat, sans savoir parler la langue, et culture qui est quand même un peu trop éloignée. C'est pour ça qu'il voulait pas. Hein, c'est pas parce qu'on voulait
c'est
pas la France.
Hein. Rester en Asie,
voilà, tout à fait. Voilà, ouais.
Et donc du coup, comment ça se passe? Il trouve du travail. Il s'intègre facilement.
Alors,
toi aussi, tu vas à l'école.
Tout à fait.
Du coup,
voilà.
Tu as 12 ans, tu arrives au collège.
Au collège.
Le français
directement. Sans parler. Voilà,
mot.
En sixième. Je suis atterri en sixième sans parler un mot.
D'accord.
Voilà. Bah, je me suis débrouillé.
Oui, bah ça va quand même.
Ok. Et donc, le travail, de toute façon, les papiers, le gouvernement s'en occupe. On avait le statut de réfugié politique. On ne peut pas retourner au Cambodge. Quand on est statut réfugié comme ça, on ne peut pas retourner dans le pays où on a fui. Il faut être logique.
À l'époque. Aujourd'hui, tu pourrais y retourner là.
Pourquoi? Parce que je suis français. Je suis fait naturaliser quelques années après.
Parce que si tu t'es resté cambodgien, tu ne pourrais pas retourner aujourd'hui
non.
au Cambodge.
Ah, non.
Oui.
En tant que réfugié, on ne peut pas retourner.
D'accord.
Là où on s'enfuit, justement. Pourquoi,
bien sûr.
Pourquoi?
Oui, tu ne vas pas faire le touriste en disant si
bah
tu
non.
vas bien que ça.
Bah non, puisqu'on a quitté le pays, c'est parce qu'il y a un problème.
Tu t'es fait naturaliser combien de temps après, du coup? Enfin, quand tu arrives en France?
Alors, moi, j'ai attendu pas mal de temps parce que, en fait, je vois pas trop d'intérêt parce que nous avons des cartes de séjour qui durent 10 ans. Donc, du coup, mais en fait, c'était parce qu'à un moment donné, pour prolonger la carte de séjour, je suis fait à la queue.
Oui, la préfecture, c'est un peu compliqué.
Voilà, très compliqué.
Ouais.
Et en partant de là, j'ai dit, plus jamais ça. Je vais tout de suite à la préfecture pour prendre un dossier pour être naturalisé.
Français. Ton père a trouvé du travail, ta famille aussi.
Oui, tout à fait.
A travaillé,
oui,
c'est
tout à fait.
Ton père parle français certainement couramment maintenant depuis...
Pas trop, parce qu'ils sont... En fait, on sait, des grandes personnes, ils sont à un certain âge,
oui.
ont du mal, c'est pas comme nous.
Vous avez retrouvé aussi une communauté cambodgienne qui habitait à Paris, certainement, vous n'étiez pas...
Oui, un peu, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup.
Il n'y avait pas beaucoup.
Non, à l'époque, à notre époque, non, il n'y avait pas énormément, non. Voilà. Donc,
et depuis, l'angoisse, tu n'es jamais retourné
non,
au Cambodge.
Non.
Pourquoi?
C'est pas parce que à cause de la peur. Non, c'est parce que j'ai fait.
Tu aimerais y retourner?
Oui.
Peut-être
oui,
avec
oui.
tu as des enfants, peut-être avec ta
avec,
femme,
avec mon fils, parce que ça l'intéresse beaucoup. Hein, je lui ai raconté l'histoire. Hein, ça fait.
Mais t'as pas envie de franchir le pas là, de dire.
Si. Mais après, financièrement, il faut j'attends un peu. C'est vrai que j'étais pas très loin là-bas. J'étais jusqu'en Thaïlande pour quelques temps de vacances et j'ai failli sauter le pas pour aller jusqu'à Siem Reap que tu connais bien,
que t'as
bien visité. Comment je connais pas?
Ah, ouais.
J'ai jamais mis les pieds là-bas.
Bah, c'est très joli, je te conseille d'aller voir les temples d'Angkor à Siem Reap.
Voilà, ouais. Donc toi tu connais mieux que moi, et puis un jour, effectivement, dès que j'ai un peu de moyens, et j'imagine bien que là, depuis qu'on a quitté en 76, ça a beaucoup
les
changé.
Les choses ont changé, c'est très touristique maintenant, c'est
voilà.
plutôt assez safe. Alors moi, ce qui m'a étonné quand je suis allé au Cambodge, c'est qu'il y a encore les stigmates de cette période. On voit encore des gens qui en manquent un bras, un pied, etc. Parce qu'il y a eu des mines de partout.
On les voit. D'accord.
J'en ai vu plein, des gens de cette époque-là et qui ont des handicaps par rapport aux mines qu'il y avait un peu partout, etc. etc. Et on parle un petit peu. Alors, c'est vrai que ce qui est étonnant aussi, c'est qu'ils ont quand même le sourire. Malgré...
Oui.
ce qu'ils ont vécu qui était quand même atroce.
Ils se relèvent très vite.
Il y a un accueil très chaleureux, un vrai sourire. Et moi, j'ai pu échanger avec certains où toute la famille a été décimée. Je me rappellerai très bien de Kim, un de notre guide, et qui, voilà, ils nous ont parlé avec les larmes aux yeux. Ils nous ont parlé, ils disaient, voilà, la vie continue. C'était il y a quelques années, on a fait la paix là, au Cambodge. Et les choses avancent quand même. Et c'est un pays qui s'est bien développé touristiquement. Il y a pas mal de touristes là. Et c'est beau.
Oui. Alors, pour un mot, à propos de mes grands-parents, si on a un petit peu.
Encore quelques minutes, ouais.
Voilà.
Minutes.
Donc, du coup, mes grands-parents ils ont été épargnés là-bas.
Oui, malgré
que les enfants sont partis, ils auraient pu très bien les punir, eux. Hein. Comment ça se fait
Vous avez eu des nouvelles après, du coup?
Oui, tout à fait. Mais longtemps après, une fois que les Vietnamiens ont envahi le Cambodge, c'est là, ça libère un peu le Khmer Rouge. Mm-hmm. C'est, je dirais, entre guillemets, grâce aux Vietnamiens, quand même, parce que sinon, ça continue, en fait. Hein. Mm. Donc, du coup, l'armée vietnamienne ont décimé les Khmer Rouge. Du coup, ça libère, du coup. Et puis, on a eu des nouvelles. Ils étaient en vie. Ils étaient en vie. J'ai même réussi. Et puis, quelques années après, mon grand-père est décédé de mort naturelle. Mm-hmm. Il a fait une sieste et après, il ne s'est pas réveillé. Ensuite, ma grand-mère était là. Et donc, du coup, on a fait venir ma grand-mère jusqu'en France. On l'a retrouvée.
Très
oui,
bien.
Jusqu'en France. J'avais même demandé de l'aide. À l'époque, c'était Daniel Mitterrand. Donc, du coup, elle nous a aidés. On a échangé de courriers avec elle. Oui, tout à fait.
D'accord.
Ouais, voilà. Quand Mitterrand était président de la République. Hein. Donc, du coup, elle nous a répondu. Elle dit oui, je vais vous aider, etc. Tout ça, elle fait venir à la grand-mère. Donc, elle a vécu en France. Elle a vécu jusqu'à 94 ans,
je crois.
Elle a
vu toute sa famille épargnée de tout ça, qui avait réussi à une nouvelle vie.
Voilà, elle
Europe.
Était contente et tout. Voilà, elle a terminé sa vie avec nous.
Quelle belle histoire! L'anglais.
Voilà.
Et tu es là. Aujourd'hui, tu travailles pour une municipalité en région parisienne.
Voilà.
Tu es dans l'informatique.
Je suis content de travailler dans cette commune et que je connais plein de monde très très intéressant. Voilà.
Et c'était une belle histoire. Et alors, on évoquait comme ça en antenne d'écrire un livre. On pourrait en faire encore une.
Exactement.
Heure,
oui,
tout ça.
Et je pense que chaque famille a une histoire un peu différente.
Chaque famille a une histoire différente par rapport à ce qui s'est passé.
Voilà.
Mais vous qui écoutez cette émission actuellement, si vous voulez réagir sur le chat, avoir les coordonnées de l'envoi,
je peux répondre, tout à fait. Ouais.
Et on pourrait faire une émission un peu plus longue aussi sur toute cette période historique des Khmer Rouges, parce qu'on est passé brièvement, mais c'était quand même quelque chose d'incroyable.
Exactement.
Et oui, c'est un génocide, ça fait partie des génocides qu'il y a eu dans l'histoire.
On commence déjà
de
un peu à oublier. Voilà.
On en parle encore un petit peu, mais ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, une quarantaine d'années dans l'échelle de l'histoire, c'était très, très
exactement.
Récent.
Exactement, ouais, je suis d'accord.
Merci beaucoup, Langlois, d'être venu jusqu'à nous, jusqu'à Paris 18e sur Cause Commune. On se retrouve, si tout va bien, lundi prochain, à la même heure, à 21h. Passez une bonne soirée.
Bonne
soirée, Langlois.
Bonne soirée, au revoir.
Au revoir.